Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais notre Église se prépare à un certain nombre de mariages pour cette année. Et c'est l'occasion pour moi de me remémorer les temps où Diane et moi nous préparions au nôtre, à notre mariage. Et je crois que tous les couples de l'Église qui s'y préparent m'ont entendu parler de mes souvenirs d'anciens combattants. Lorsque Diane et moi vivions de chaque côté, de part et d'autre, de la Manche. En ces temps reculés, le marché des télécoms n'était pas encore libéralisé et les appels internationaux coûtaient horriblement cher, de l'ordre de 7 euros pour un peu moins d'une demi-heure de communication. Internet en était à ses débuts. Et la solution la plus accessible pour communiquer était le courrier. Diane et moi, nous sommes donc beaucoup écrits. Nous avons découvert combien une lettre pouvait faire passer de choses. Si je vous parle de cela, c'est parce que nous allons commencer aujourd'hui l'étude d'une lettre. Une lettre écrite, elle aussi, il y a fort longtemps. En effet, j'aimerais aujourd'hui commencer avec vous une série de prédications sur la première épître de Paul aux Corinthiens. Je vous propose ainsi d'explorer ce que Dieu avait à dire à ces chrétiens du premier siècle et voir ce qu'il peut nous dire à nous, aujourd'hui, à Clermont-Ferrand, au XXIe siècle, à travers ce texte. Nous allons naturellement débuter par le début, et je vous invite à trouver dans vos Bibles le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 1, à partir du verset 1, et donc 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1 à 3. « 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 1 à 3. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par appel, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ et qui sont saints par appel, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoque le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est leur Seigneur comme le nôtre. Grâce et paix à vous de la part de notre Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. » Jusqu'ici notre lecture. Les trois versets que nous avons lus représente l'introduction à la lettre. Elle est conforme à la façon de faire de l'époque. L'auteur se présente, il nomme les destinataires, puis termine son introduction par une salutation. Pour résumer ces trois versets, nous pourrions dire « Paul aux Corinthiens, salut !» Alors on va creuser un peu. Et d'abord, nous poser la question, mais de qui parlons-nous ? Commençons par Paul. Paul, c'est un acteur majeur du Nouveau Testament. On parle beaucoup de lui dans le livre des Actes des Apôtres. Et c'est aussi un écrivain important du Nouveau Testament. Presque un quart des écrits qui s'y trouvent ont été écrits par sa main. Paul ne s'est pas toujours appelé Paul. Au départ, on l'appelait Saul, il s'appelait Saul. Et c'est à la fois un citoyen romain, romain de naissance, et aussi un juif. Un juif de par ses deux parents. « C'est même un pharisien particulièrement zélé, qui souhaite défendre la foi juive contre les enseignements des chrétiens. Et il apparaît pour la première fois dans les écrits bibliques, dans le récit de la lapidation d'Étienne, le récit que Monique nous a lu tout à l'heure. C'est lui qui gardait les vêtements. Au chapitre 9 du livre des Actes, nous avons le récit de sa conversion. Alors qu'il était en route, en chemin pour Damas, pour persécuter les chrétiens qui s'y trouvaient, Jésus lui a parlé d'une façon spectaculaire et il l'a arrêté dans ses desseins de persécution et l'a envoyé à son service. Et à partir de ce moment, il devient extrêmement actif pour l'Évangile. Le livre des Actes nous rapporte les voyages qu'il a faits, 3 voyages missionnaires où il se déplace autour de la mer Méditerranée. Il prêche la parole, il fonde des églises, dont celle de Corinthe. C'est non seulement un missionnaire, mais aussi un écrivain. Comme je l'ai dit, la Bible contient 13 lettres qu'il a envoyées à des églises pour les enseigner, les fortifier ou les corriger. À présent, qui sont les Corinthiens ? Les Corinthiens. Corinthe, c'est une ville qui se trouve sur l'isthme qui relie le Péloponnèse au reste de la Grèce. Alors, on a le bassin méditerranéen avec l'Empire romain, la Judée, Israël ici, et la Grèce, c'est là. Si on regarde en zoomant, la Grèce est en 2 parties, avec le Péloponnèse et le reste de la Grèce, et ici, c'est ce qu'on appelle l'isthme, cette petite bande de terre avec Corinthe à cet endroit-là, entre les 2 parties, donc, de la Grèce. Et c'était une cité riche, une cité portuaire, riche commercialement, et qui a été complètement détruite par les Romains au IIe siècle avant Jésus-Christ. Les habitants ont été tués ou vendus en esclaves, la ville a été détruite. Et au 1er siècle, en 29 avant Jésus-Christ, elle a une seconde vie, puisque Jules César décide d'y fonder une ville sur le site de l'ancienne ville. Et la ville est alors repeuplée avec des gens qui viennent de tout l'Empire. Donc c'est pas une ville de Grecs, mais une ville composée de personnes venant de tout l'Empire romain, y compris des Juifs qui habitaient à Corinthe. Comme nous l'avons dit, Paul a fondé l'église de Corinthe. Et s'il lui écrit aujourd'hui dans ce texte, c'est pour répondre à des questions. On comprend à la lecture de l'Épître qu'un esprit de parti s'était installé dans l'Église. Des camps étaient apparus et chacun se positionnait soit dans un camp, soit dans l'autre. Et Paul va inviter ses lecteurs à regarder plus loin, regarder plus haut, regarder plus loin que le bout de leur nez, le bout de son parti, le bout de son église, regarder au Christ et à son dessein pour les chrétiens et pour l'Église. Et puis également, dans cet épître, Paul répond à plusieurs questions qui préoccupent l'Église et qui lui ont certainement été posées et ont déclenché la rédaction de cette lettre. Mais tout ceci, nous le verrons plus en détail, Dieu voulant, dans de prochaines prédications sur l'épître. Revenons à notre passage. Je vous l'ai dit, il s'agit d'une introduction, d'une salutation classique. Elle prend une forme classique, elle présente l'auteur, les destinataires et une formule de salutation. Mais dans ce plan classique, Paul enrichit la formule Il enrichit chacun des éléments pour donner du sens. Et c'est riche. Alors, nous allons détailler. Le premier verset, c'est la présentation de l'auteur, Paul. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par appel, par la volonté de Dieu. C'est la façon de se présenter qu'utilise Paul pour à peu près toutes ses lettres. Regardons un peu plus ce qu'il ajoute derrière son nom. Première chose, c'est apôtre de Jésus-Christ. Le terme apôtre n'est pas un terme courant pour nous aujourd'hui, ce n'est pas un terme qu'on emploie tous les jours dans nos conversations. Un apôtre, c'est un envoyé, un messager, et dans ce contexte, un chargé de mission par Dieu. C'est un terme assez générique, hein, envoyé pour Dieu, mais le plus souvent dans le Nouveau Testament, il désigne une catégorie spéciale d'envoyés. Il désigne ceux qui ont reçu la responsabilité de transmettre au monde l'Évangile. Alors ceux qui ont reçu la responsabilité de transmettre au monde l'Évangile, c'est en priorité les 12 disciples que Jésus a choisis, les 12 disciples qui l'ont accompagné et qui ont été témoins de sa résurrection. Les 12 disciples, moins Judas. Ils ont reçu de la bouche de Jésus la mission de répandre l'Évangile. Mais Paul, suite à sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, a reçu la même mission et il l'a reçue de la bouche même de Jésus. Je vous parlais de cette révélation spectaculaire où Paul a entendu la voix de Jésus, mais non seulement Paul, mais aussi ceux qui l'accompagnaient pouvant attester de ce que Jésus a parlé ce jour-là. Et donc, en rappelant cela, Paul souligne que son mandat ne lui vient pas des hommes, mais de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que ce qu'il écrit fait autorité pour les Corinthiens, et au-delà, puisque ces écrits font partie du Nouveau Testament et qu'ils font autorité pour nous. Par appel. Paul n'a pas le choix. Ce n'est pas parce qu'il en a envie qu'il est là, ce n'est pas parce qu'il en a envie qu'il fonde des églises ou qu'il leur écrit. C'est parce que Dieu l'a décidé. C'est parce que Dieu l'a appelé. Et quand Dieu a décidé quelque chose, eh bien, il est difficile de s'y défiler. Et en tout cas, on aurait tort de le faire. Par la volonté de Dieu. L'autorité de Paul vient de Dieu. Elle ne vient pas des Corinthiens ou d'autres hommes. C'est Dieu qui la lui donne et elle a été reconnue par les autres apôtres. Donc, dans cette présentation, Paul rappelle qu'il parle avec autorité, non de sa propre volonté, mais de celle de Dieu qu'il envoie. Passons aux Corinthiens à présent. Paul désigne l'église des Corinthiens comme l'église de Dieu qui est à Corinthe. L'église, vous l'avez peut-être déjà entendu, ça vient d'un mot qui signifie rassemblement. Étymologiquement, c'est même un mot qui signifie appeler hors d'eux, comme tirer hors d'eux. Alors, il faut faire attention avec l'étymologie. Ce n'est pas toujours pertinent de se pencher là-dessus pour comprendre le texte, mais ici, je trouve que ça a du sens. Paul leur rappelle que l'église de Corinthe, ce n'est pas un groupe de personnes qui se réunissent pour un projet commun, pour former une association religieuse. Non, il s'agit d'un groupe que Dieu a constitué, que Dieu s'est choisi. L'initiative vient de Dieu, c'est lui qui choisit de se donner un peuple dans cette ville de Corinthe. À ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ. Consacrés. Consacrés, ça signifie mis à part, réservé, mis de côté pour Jésus-Christ. En acceptant le salut en Jésus-Christ, les Corinthiens ont été mis de côté. Mis de côté du monde d'où ils ont été tirés, mis de côté pour le salut, pour éviter la perdition. Et c'est fait. Dans le temps passé qu'emploie Paul, on s'en rend compte, ils ont été consacrés. C'est terminé, ils sont mis de côté. Le salut leur est acquis. Amen. Ils ont été consacrés à Dieu, mais ils sont saints par appel. Et cette formule vient compléter. Comme le terme consacré, saint, ça fait référence à la même idée, de mis à part, mis de côté. Pourquoi est-ce que Paul insiste et qu'il utilise les deux ? Eh bien, c'est que non seulement le chrétien est mis à part, mis de côté pour Dieu, c'est terminé, mais également, il est appelé à être au présent, à être mis de côté, à vivre ainsi et à se comporter comme tel, jour après jour. Nous appelons Jésus-Christ Seigneur, mais il faut comprendre ce que cela veut dire. Ce n'est pas seulement un titre. Seigneur, ça implique une relation de soumission. Ça implique une hiérarchie. Ça implique que le Seigneur dirige, qu'il décide pour ceux qui sont sous son autorité. En commentant ce passage, Robert Somerville écrit « La foi marque un commencement, un départ dans la vie au Christ, donc aussi dans l'Église. Mais elle n'est pas l'affaire d'un instant, du moment où la personne met sa confiance en Christ sur le fondement de sa parole. Elle crée un lien durable entre le croyant et son Seigneur. Elle est d'abord confiance, mais pas seulement cela. Elle est aussi adhésion à Jésus-Christ, engagement à le suivre. Maintenant qu'ils appartiennent à Dieu, qu'ils sont unis à Jésus-Christ, qu'ils sont membres de son Église, ils ne peuvent plus vivre comme s'ils appartenaient encore à la société païenne de Corinthe. Ils doivent tirer les conséquences de leur nouvelle appartenance en soumettant leurs pensées et leurs actions à leur Seigneur. En fait, en leur disant qu'ils sont mis de côté, consacrés, saints, Paul leur rappelle qu'ils ne s'appartiennent plus. Ils ne sont plus maîtres de leur vie. C'est à Dieu qu'ils appartiennent. C'est lui le maître. Avec tous ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, Paul ouvre l'horizon des Corinthiens. Non seulement il leur rappelle qu'ils ne s'appartiennent plus, qu'ils appartiennent à Dieu, mais ils doivent aussi intégrer que d'autres, ailleurs dans le monde, sont dans la même situation qu'eux. Ils ne sont pas les seuls chrétiens tranquilles dans leur église. Ils font partie d'un ensemble plus grand, beaucoup plus grand. Ensemble qui contient aussi d'autres qui ont été appelés de la même façon qu'eux. et qui vivent, le rappelle, de la même façon qu'eux, et qu'ils doivent prendre cela en compte. Prendre en compte, ça veut dire qu'il n'y a pas chez eux l'intégralité de la sagesse. Et particulièrement qu'il faut écouter l'apôtre Paul qui leur écrit. Mais je pense que c'est également une invitation à ouvrir leurs yeux pour s'intéresser aux autres, à leurs frères et sœurs, ailleurs et même, premièrement, dans leur propre Église. C'est une invitation à apprendre d'eux, à vivre avec eux la communion que Dieu a voulu, lui qui s'est choisi des chrétiens, lui qui s'est choisi des fidèles et qui s'est constitué des églises en différents lieux. Voilà, en un verset, Paul rappelle plein de choses aux Corinthiens. Il les remet à leur place. Ce n'est pas leur église, c'est celle de Dieu. C'est Dieu qui les appelle et c'est lui qui fixe les règles. Et Paul sait de quoi il parle. Il l'a dit, comme eux sont saints par appel, Paul est apôtre également par appel. Il sait ce que ça implique, il le vit. Il n'a pas le choix, pas d'autre choix que de répondre à cet appel. Et comme lui, les chrétiens de Corinthe doivent vivre en cohérence avec leur appartenance à Dieu, leur consécration. Après l'auteur, après le destinataire, nous arrivons à la troisième partie de l'introduction, la salutation. Paul invoque sur ses destinataires grâce et paix. La grâce, c'est un résumé de l'Évangile. C'est le rappel de la condamnation enlevée définitivement, une fois pour toutes, sans mérite de la part du bénéficiaire, par choix de Dieu qui choisit ce qu'il sauve. Et la paix, c'est ce que Jésus souhaite à ses disciples. Et cette paix, c'est plus que l'absence de guerre, c'est plus que l'absence de conflit. Cette paix, la paix que Jésus donne, c'est la justice, c'est le bonheur, c'est le salut. Après leur avoir rappelé leur devoir de se soumettre à leur Dieu, Paul leur rappelle que le fardeau que Jésus demande de porter est léger. Voici ce que Jésus dit. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés, sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Grâce et paix de la part de Dieu et de Jésus-Christ. Cette bénédiction, quelque part, elle n'est pas de l'initiative de Paul. Paul ne fait que transmettre ce que Dieu lui a demandé de transmettre. Car c'est la volonté de Dieu que les croyants se bénissent les uns les autres. Et cette bénédiction sont plus que des mots, c'est plus que de belles paroles. Il y a aussi des choses à mettre en œuvre. En effet, on ne peut pas souhaiter à quelqu'un la paix et lui faire la guerre. Ainsi, en suivant la volonté de Dieu, les Corinthiens devraient œuvrer, autant que cela dépende d'eux, à la paix de leurs frères et sœurs, à la paix et à ce qu'ils vivent pleinement dans la grâce de Dieu. Avant d'aller plus loin dans sa lettre, dans ce qu'il a à leur dire, c'est une première chose qu'il leur rappelle, une première chose à laquelle ils sont appelés en tant que chrétiens. Et nous alors, nous qui sommes à l'église de Clermont-Ferrand au XXIe siècle, que retenir de l'introduction de cette lettre, de ces trois versets ? Tout d'abord, retenons, comprenons et retenons ce qu'est notre Église. Comme les Corinthiens, nous sommes un rassemblement de personnes qui ne se sont pas choisies. Ce n'est pas nous qui nous sommes choisis les uns des autres pour un projet commun. C'est Dieu qui nous a choisis. Choisis pour être mis à part, pour être des personnes qui ne s'appartiennent plus, qui ne dirigent plus leur vie, mais qui mettent leur vie, leurs actions, leurs pensées en conformité avec la volonté de leur Seigneur. Nous sommes appelés par Dieu à vivre cette vie de soumission. Et l'appel de Dieu attend une réponse. Alors, tu viens ou tu viens pas ? Si tu viens, si tu te décides à répondre oui, c'est pour être consacré, pour être mis à part. Ce n'est pas un jour oui, un jour non. Ce n'est pas à ta sauce, à ta façon de voir. C'est selon ce que Dieu demande, selon la façon dont il voit les choses. Aussi, comme les Corinthiens, écoutons ce que dit Paul à travers les âges. Il a reçu l'autorité de la part du Seigneur. Lorsque nous le lisons, c'est la parole de Dieu qui nous parvient. Nous devons le recevoir comme tel et nous en nourrir pour avancer dans notre sanctification. Également, une deuxième chose que nous pouvons retenir, au-delà de notre Église, retenons que nous faisons partie d'un ensemble plus grand que ce qui se passe entre ces murs. Il y a d'autres chrétiens dans notre ville, d'autres chrétiens avec lesquels nous pouvons unir nos efforts pour agir au nom du Seigneur, pour témoigner autour de nous. Il y a d'autres églises dans notre fédération et dans notre pays, d'autres églises qui peuvent nous interpeller, dont nous pouvons nous inspirer, d'autres églises que nous pouvons également bénir à travers la solidarité chrétienne, qu'elle soit fédérative ou autre. Et puis, il y a des églises partout dans le monde avec qui nous pouvons vivre des choses similaires. Et aujourd'hui, où c'est le dimanche de l'église persécutée, vivons particulièrement cette dimension en pensant à nos frères et sœurs en difficulté. Prions pour eux, pour leur sécurité, pour leur croissance. Mais aussi, soyons prêts à apprendre d'eux, de leur foi, cette foi qui est assez forte pour surmonter l'épreuve de la persécution et tenir bon. Finalement, une troisième chose à retenir, suivant l'exemple de Paul, retenons cette exhortation à nous bénir les uns les autres, à nous bénir dans nos paroles comme dans nos actes. Amen.